peut-on parler d'un retour des années 30 avec Mathieu Boccoté et Daniel Schneiderman. De nombreux livres et articles en témoignent. Il est devenu courant dans le monde intellectuel et journalistique de comparer la montée actuelle des populismes et des nationalismes en Occident à ce qui se passait dans les années 30 du XXe siècle. Concordance des temps, dit-on de toutes parts. Dans un entretien au quotidien Ouest-France, le président de la République lui-même s'est dit frappé par la ressemblance entre le moment que nous vivons et celui de l'entre-deux-guerres. Cette analogie est-elle éclairante ou trompeuse? C'est la question que je voudrais poser ce matin à Mathieu Boccoté, l'intellectuel québécois qui tient désormais une chronique hebdomadaire au Figaro et au journaliste Daniel Schneiderman. Comme vous êtes plongé dans les archives de l'époque pour votre livre « Berlin 1933, la presse internationale face à Hitler », c'est vers vous que je me tourne d'abord, Daniel Schneiderman. Les mots qui nous accablent et les périls plus graves qui nous menacent peut-être ont-ils un air de déjà-vu?
Un air certainement. Un air, personne ne peut prétendre qu'il n'y a pas comme une espèce de ressemblance. Et sans doute que, avant de commencer d'enquêter pour mon livre, je vous aurais répondu oui. Enfin, il y a beaucoup de points communs. Vous l'avez dit, les populismes, l'Italie, la Hongrie, le Brésil, la montée des nationalismes. J'aurais été, comme beaucoup de gens d'ailleurs, surtout sensible aux ressemblances. Et puis pour mon livre, vous l'avez dit, donc qui est un livre sur la manière dont la presse internationale française, britannique, américaine, finalement a été relativement aveugle à la montée du nazisme. Et je parle des correspondants sur place, ceux qui étaient à Berlin, c'est-à-dire ceux qui étaient vraiment en situation de voir. Pour mon livre, je me suis plongé à la fois, vous l'avez dit, dans les journaux de l'époque et en même temps dans leurs livres de souvenirs. Parce que, évidemment, tous ces journalistes qui étaient sur place et à qui on a reproché ensuite de ne pas avoir vu grand-chose, ils ont tous écrit des livres après la guerre pour se justifier, pour expliquer que si, ils avaient vu autant qu'ils pouvaient voir et puis ils avaient raconté autant qu'ils pouvaient raconter. Et à se plonger dans leurs souvenirs dans leurs récits de la vie quotidienne, ce qui me frappe, c'est comment quand même dans l'Allemagne nazie dans laquelle ils étaient plongés, le quadrillage totalitaire est partout, dans les rues. Je veux dire, on peut pas faire un pas dans les rues de Berlin sans tomber sur une patrouille de SA qui vous oblige à faire le salut. Et si vous faites pas le salut, vous passez un mauvais quart d'heure. Le quadrillage est dans les usines, dans les villages, dans les cages d'escalier, dans les cours d'école. Il y a des cellules du parti nazi partout. Et donc, je veux dire...
Ça, c'est une différence.
Hein. Quelle que soit la situation, la gravité de la situation en Italie, en Hongrie... On n'y est pas. Enfin, voilà, on n'y est pas. Donc, du coup, ça m'a beaucoup fait réfléchir sur tous ces parallèles qu'on peut avoir tendance à faire trop rapidement. Et quant à ce qui concerne notre métier de journaliste, puisqu'on y viendra peut-être dans la suite de l'émission, ça m'a surtout alerté sur la nécessité, quand on est journaliste et qu'on est au cœur d'une situation, la première difficulté, c'est de se demander à quel éléphant dans le couloir on est aveugle, finalement, puisque on est toujours aveugle à un éléphant dans un couloir. Et la deuxième difficulté, c'est celle de trouver le mot juste pour décrire une situation. C'est-à-dire, peut-être une difficulté à laquelle j'étais moins sensible avant, le danger de surnommer une situation, de la surdramatiser à force d'hyperbole et d'adjectifs catastrophés, et le danger, à l'inverse, de la sous-nommer, c'est-à-dire d'y rester aveugle. Et je dirais, cette enquête, moi, m'a rendu plus sensible à la nécessité de rester autant que possible sur la difficile crête du bien nommé.
D'accord. Bon, écoutez, j'aurais d'autres questions à vous poser. Mais...
J'en suis sûr.
Mathieu Boccoté, que pensez-vous, quant à vous, de cette analogie entre les années 30 et notre temps ?
Je trouve que c'est une manière assez, comment dire, une très mauvaise manière pour penser la singularité de notre époque. C'est-à-dire, notre époque pose ses propres défis, pour le terme convenu. Notre époque a ses propres problèmes. Notre époque a une part d'originalité indéniable, me semble-t-il. Or, rabattre les années présentes sur les années 30, c'est premièrement une manière facile, normalement, de se placer du bon côté de la barricade historique. Rarement, on en appelle aux années 30 pour se situer du côté des forces du mal. Alors, on dit, ce sont les années 30, et moi, je suis un résistant dès maintenant. Je vois venir la bête. Donc, c'est une manière de se faciliter, de se féliciter à l'avance de son rôle dans l'histoire. Deuxièmement, je trouve que c'est une manière assez agaçante de transformer le désaccord politique sous le signe du scandale moral. C'est-à-dire, tout désaccord substantiel devrait nous ramener aux années 30 d'une manière ou de l'autre, et on comprend très vite que dans cette espèce de jeu d'amalgame, on en arrive très rapidement à l'hitlérisation du désaccord. Or, me semble-t-il qu'aujourd'hui, des phénomènes comme ce qu'on appelle plus ou moins habilement, à mon avis, plus ou moins justement la montée des populismes, le retour de la nation, le besoin de penser des identités substantielles, penser la crise migratoire qui nous frappe, devant tout cela, me semble-t-il qu'on a besoin d'appareil conceptuel neuf, ou à tout le moins de penser justement sans toujours dire c'est l'éternel retour du même, c'est la figure du déjà-vu. Je veux bien comprendre que d'une époque à l'autre, il y a des schèmes récurrents dans la nature humaine, dans l'histoire humaine, inévitablement, mais au-delà des schèmes récurrents qui traversent l'histoire d'une manière ou de l'autre, plaquer la grille des années 30 sur notre époque, c'est nous condamner, premièrement, à ne pas comprendre notre époque, et deuxièmement, nous condamner à transformer en adversaires, les adversaires en monstres, ce qui me semble inquiétant.
Daniel Schellermann.
Je suis d'accord avec tout ça.
Vous êtes d'accord avec tout ça?
je suis d'accord avec tout ça. Après, pour le dire vite, si vous voulez, c'est pas parce qu'on a énormément crié au fascisme. D'ailleurs, ça, c'est pas d'aujourd'hui qu'on crie au fascisme. Hein. C'est pas Macron le premier à crier au fascisme. Par exemple, pour prendre une référence aux années 30 qui est récurrente, c'est Munich. En 38, je veux dire, Dieu sait si on a vécu Munich depuis 20 ans, le Munich de ceci, le Munich de cela. Bon, alors, c'est pas en même temps, parce qu'on a exagérément crié au fascisme, qu'il faut s'interdire de voir le fascisme si jamais le fascisme revient, voilà.
Alors justement, bon, alors, avant que moi-même j'intervienne, je voudrais, si vous voulez, circonscrire un peu le débat. Vous êtes prudents l'un et l'autre, vous ne voulez pas d'analogie trop facile, mais quand même, quels sont, selon vous, précisément, Daniel Schellermann, les éléments de ressemblance. Pas que vous dites, par exemple, que votre livre est né de l'effroi Trump. Vous interrogez tout au long de l'écriture de ce livre sur la pertinence de cette analogie et vous finissez par conclure, oui, Trump c'est ubu, mais enfin, il ne faut pas préjuger de la suite. Donc voilà, là on a un élément d'analogie. Mais pouvez-vous préciser et en donner d'autres qui vous seraient inspirés, par exemple, par la situation européenne et la montée de la xénophobie, le rapport à la crise migratoire.
Bah, si vous voulez, exemple. Non, mais Trump, pour être clair, hein, je dis pas Trump, c'est Hitler.
On
est bien d'accord.
Ah non, non, oui. Voilà.
L'analogie, c'est, et d'ailleurs ça a été le déclic de départ du livre, l'analogie c'est la sidération médiatique. C'est la sidération médiatique de tous les journalistes américains les plus prestigieux, le New York Times, le Washington Post, etc., qui au début ont tous rigolé. Quand Trump s'est lancé dans la course à la présidentielle, il le classait dans la rubrique variété, il le classait pas dans la rubrique politique. Et le jour où il a été désigné candidat républicain, et plus encore le jour où il est élu président des États-Unis, et où ces mêmes journalistes doivent forcer les mots « le président Donald Trump à franchir leur gorge », ils sont tous sidérés et ils se demandent « mais qu'est-ce qu'on a raté ?» Et donc, ils se précipitent sur les... Certains d'entre eux, hein, se précipitent sur les archives des journaux américains des années 20 et 30 et essayent de voir si leurs devanciers, les journalistes des années 20 et 30, ont été plus perspicaces et plus lucides. Et de fait, ils retrouvent dans la sidération médiatique l'écho de leur propre sidération. Et alors après, on va peut-être directement entrer dans le sujet. Le deuxième événement qui me ramène aux années 30, dans les premiers jours du mandat Trump, c'est évidemment le décret qui prend très vite sur l'interdiction d'entrer aux États-Unis des ressortissants de 7 pays musulmans. Bon. Et la manière dont, là, le système médiatique américain, le New York Times, CNN, envoie ses reporters dans les aéroports avec les micros, les caméras pour interroger les familles des gens qui peuvent pas entrer, y compris les refoulés eux-mêmes. Bon. Et là, deuxième flashback de la presse américaine sur l'affaire du Saint-Louis. Le Saint-Louis, c'est ce paquebot en 1939, mai-juin 1939, rempli d'un millier d'immigrants juifs, allemands et autrichiens, qui ont été interdits d'entrer aux États-Unis. Le paquebot a fait des ronds dans l'eau pendant 10 à 15 jours au large des côtes américaines, puisque Roosevelt n'a pas voulu lui ouvrir les ports. Alors voilà une analogie évidente qui vient tout de suite. Je veux dire, migrants d'hier, migrants d'aujourd'hui. Migrants, oui. Je veux dire, évidemment, vous voyez l'Aquarius, vous êtes obligé, le parallèle, le précédent avec le Saint-Louis vous vient forcément. Et après, évidemment, le travail du journaliste, c'est d'essayer de gérer ce parallèle, de faire l'effort de se rendre compte que non, les situations ne sont pas les mêmes.
Oui, je ne suis pas certain sur le dit que ça vienne immédiatement à l'esprit, vous me pardonnerez.
Bien, en tout cas.
Ah, tout le monde, mais voilà, ça je conviens.
Je ne pense pas être le seul.
Non, vous n'êtes pas le seul.
Mais je ne suis pas le seul à refuser la logique, je crois. Il y a une différence de fond entre l'histoire du Saint-Louis, qui est très particulière et qui fait référence à une toute autre époque, et l'Aquarius, qui n'est pas que l'Aquarius. L'Aquarius, qui est le symbole, par ailleurs, d'une vague migratoire bien plus vaste. L'Aquarius, qui est devenu le symbole, par ailleurs, de la paralysie du politique devant une certaine conception du droit. L'Aquarius qui est devenu le symbole d'une forme de capitulation politique de l'Europe devant l'argument humanitaire lorsqu'on pense à la crise migratoire. Donc j'ai l'impression que les deux phénomènes doivent être clairement distingués. Et je le ferai aussi à la lumière, vous avez dit tantôt quelque chose qui me semble très juste, vous avez dit, on ne doit pas abuser du terme fascisme, mais si cela dit, on ne doit pas s'interdire de voir le fascisme si jamais il revient. Le problème, semble-t-il, avec ce terme, c'est qu'on a assisté depuis quelques décennies quand même une telle extension de l'empire du mot fascisme qu'aujourd'hui, le terme fascisme sert à désigner toute forme de désaccord substantiel avec une forme d'hégémonie progressiste. Donc, le respect des frontières, le maintien des frontières, fascisme, l'identité nationale, fasciste, je dis pas que c'est votre cas, non. Je dis que dans le débat public, on a utilisé de manière abusive ce terme, ce qui fait qu'on l'a un peu d'ailleurs, on l'a vidé de sa substance, et fasciste désormais celui avec qui je suis très en désaccord. Et même quand on veut étiqueter une position de manière pour la désarmer, on va coller le mot fascisme un peu à tout. Or, me semble-t-il que le fascisme appartient à une toute autre époque, on doit le penser pour ce qu'il était, on doit voir s'il a véritablement des héritiers, mais utiliser ce concept-là pour penser finalement ce que j'appelle la fascisation du conservatisme, comme on le voit en Europe aujourd'hui, je ne suis pas certain que ce soit approprié. Voilà pourquoi il y a même des termes qui ne me semblent pas transposables d'une époque à l'autre.
Mais c'est embêtant, je suis encore d'accord avec vous.
Alors justement,
ça va arrêter bientôt.
Non. Je vais introduire du dissensus, si vous voulez, parce qu'il est vrai, vous avez parlé du bateau, du Saint-Louis, l'analogie s'impose, dites-vous, avec l'Aquarius, et sans doute, à première vue, simplement, voilà. Et on dit migrant, c'est intéressant, c'est-à-dire des individus qui ne sont plus définis ni par l'origine, ni par la destination, mais précisément par l'errance. Patrick Chamoiseau parle même d'homo migrateur. Mais ce qui s'impose, c'est la figure du juif errant. Et il est vrai que tous ceux qui font cette comparaison avec les années 30 nous disent aujourd'hui que les migrants, les immigrés, si vous voulez, sont en quelque sorte les nouveaux juifs. Il y a une réorientation, c'est le mot de Luc Boltanski, contre les musulmans de l'hostilité des années 30 qui visait les juifs. C'est un des piliers de l'analogie sous laquelle nous vivons. Et là, je vois un paradoxe, et je vous interroge, Daniel Schellermann, quand même, parce que vous avez des dialogues avec votre mère qui s'inquiète de l'antisémitisme, de sa possible montée, mais précisément, avec cette obsession des années 30, il y a un phénomène qu'on ne veut pas voir, c'est-à-dire la montée d'un antisémitisme terrible, qui n'est en rien comparable à celui des années 30, qui n'est pas une expression du vieux fond antisémite européen, qui est effectivement d'origine immigrée, même si, bien sûr, tous les immigrés ne peuvent pas être considérés comme antisémites, c'est sans doute minoritaire, mais tel est le phénomène. Et j'ai lu dans le livre « Une France soumise », publié sous la direction de Georges Bensoussan, ces remarques de l'ancien commissaire Samy Gosselin, les synagogues, les écoles juives, les centres communautaires juifs deviennent des forteresses avec leurs portes blindées, leurs caméras de vidéosurveillance, leurs clôtures métalliques surélevées, et il parle de cette insécurité qui a provoqué un déplacement des membres de la communauté juive dans la banlieue nord de Paris vers d'autres villes plus tranquilles comme les Lilas, le Rincy, Villemomble, etc. Donc, une alliée intérieure, dit même le Premier ministre. Donc ça, c'est un phénomène absolument inédit, et à force de parler des années 30 et de l'antisémitisme des années 30, on ne le voit pas. pas. Il y a quand même un paradoxe.
Alors, plusieurs choses. D'abord, je note que vous avez bien voulu reconnaître que tous les immigrés ne sont pas antisémites, et je pense que tous les immigrés qui sont dans ce pays vous en seront reconnaissants.
Il faut le dire et le redire.
De ne pas tous les englober dans l'infamie de l'antisémitisme, c'est très gentil de votre part.
Mais c'est pas gentil. Je n'ai pas fait ça par gentillesse.
Mais évidemment que tous les immigrés ne sont pas antisémites.
Si je dis c'est d'origine immigrée, oui, et si je ne fais pas cette précision, on parlera de mon islamophobie et de mon racisme. Bon. Je suis obligé de faire cette précision. Elle va de soi, mais si je ne la fais pas, je serai attaqué. Oui, donc il faut que je la fasse.
Elle pourrait laisser penser par défaut que tous les immigrés pourraient être antisémites, mais arrêtons là. Alors, sur l'Aquarius, vous savez ce qui m'a frappé à la fin de mon enquête, en fait, une fois que je me suis avalé des pages et des pages et des pages et des articles et des articles, ça a été le fait que je pense, dans tous les articles que j'ai recensés sur ce sujet, de ne pas en avoir lu un seul qui donne un visage aux victimes, aux juifs persécutés. Pas un portrait. Peut-être pas une citation ou quelques citations misérables, etc. Je veux dire, un défaut d'humanisation totale. Et là, en tout cas, pour rester dans ma spécialité, qui est l'étude des contenus médiatiques, si vous voulez, il y a un parallèle qui saute aux yeux, c'est que dans le flot d'articles, d'enquêtes, de reportages consacrés à l'Aquarius et à ce qu'on appelle la crise migratoire, l'humanisation des migrants est quelque chose qu'on ne lit quasiment jamais. Les migrants, c'est des chiffres, ils vont nous envahir par dizaines, par centaines de milliers, ils passent par ici, ils passent par là, par l'Espagne, par l'Italie, ils prennent les petits chemins de montagne, etc. Mais en tout cas, sur le plan sur lequel moi je souhaite me tenir, qui est celui de la médiatisation et de ce qu'écrivent les journaux, il y a en tout cas là un parallèle qui me saute aux yeux. L'antisémitisme aujourd'hui. Je ne vais pas vous dire, Alain Finkielkraut, il n'y a pas d'antisémitisme aujourd'hui. Je veux dire, oui, il y a des actes antisémites aujourd'hui, qui sont nombreux. Il y a des gens, effectivement, qui doivent quitter leur en France, qui doivent quitter leur appartement, aller s'installer dans le département voisin, partir en Israël, etc. Ça existe. Et peut-être, en effet, le système médiatique est-il insuffisamment vigilant sur ce phénomène, comme il a été totalement aveugle à l'antisémitisme des années 30. Mais de la même manière, si vous voulez, qu'on ne peut pas comparer une ville avec des rues pleines de SA à nos villes aujourd'hui, même en Italie ou en Hongrie, je veux dire, à aucun moment on ne peut comparer un antisémitisme d'État, comme l'antisémitisme hitlérien, auquel concourent toutes les administrations de l'État, la Gestapo, la recherche, l'économie avec les expropriations d'entreprises juives, on ne peut pas comparer on est dans parallèle différence, on est d'accord, on est dans ressemblance différence. Bon, je veux dire, à un antisémitisme qui est aujourd'hui un antisémitisme de populaire, de gens, voilà, de gauche, de droite d'ailleurs, parce que si on parle de l'antisémitisme des immigrés, parlons aussi des éditions de Gallimard qui veulent rééditer les pamphlets de Céline, donc voyons les deux.
Enfin, c'est pas les pamphlets de Céline qui obligent les juifs d'un certain nombre de villes de France à déménager.
Je note que la réédition des pamphlets de Céline ne semble pas vous déranger. Très bien. Ok. Disons au moins que ça pose question.
Oui.
Mais
Daniel Schoenemann, quand on parle des années 30, c'est pour dénoncer une mentalité. Pas un État, les États, en France en tout cas.
Aussi,
en France, quand c'est aussi une mentalité nationaliste, populiste et xénophobe. Et je dis que l'obsession mentalité, eh bien, nous empêche de voir l'émergence d'une autre mentalité, en effet. Et vous êtes moqué de ma précision, mais moi je me souviens d'une conférence de presse de Georges Bensoussan qui disait « Aujourd'hui, dans un certain nombre de banlieues, et donc de lycée et de collège, l'antisémitisme n'est plus une opinion, c'est un code culturel. » Donc voilà, et ça, il faut l'entendre. On s'interrogera d'ailleurs sur les raisons pour lesquelles ça n'a pas été entendu. Une obsession ne doit pas cacher une réalité.
Mais quand on analyse ce phénomène, ça nous entraîne trop loin et je pense pas qu'on va passer l'heure là-dessus. On peut quand même pas faire l'économie aujourd'hui de quelque chose qui s'appelle le conflit israélo-palestinien et la manière dont ce conflit israélo-palestinien s'importe en Europe, dans différents pays, et notamment en France, et la manière dont l'antisionisme, parfois, en effet, dégénère en antisémitisme. Mais enfin, c'est un autre sujet.
J'aimerais revenir sur cette idée selon laquelle, en fait, qui est très présente, selon laquelle les musulmans seraient les nouveaux juifs. On a une espèce de grand récit médiatique à certains égards, mais qui est très présent dans l'histoire universitaire, hein, qui n'est pas toujours exemple de biais idéologique. Où on nous dit, il y a une forme de pathologie au cœur de la civilisation occidentale qui est l'hostilité envers la différence, qui est le refus de l'autre. Dès lors, à chaque époque, l'Occident chercherait son autre à maudire, chercherait sa figure à diaboliser. On va dire, hier c'était les juifs, aujourd'hui c'est les musulmans, demain ça pourrait être autre chose, mais fondamentalement la part constante d'une époque à l'autre, ce serait l'espèce de culpabilité ontologique de l'Occident qui ne se construirait qu'à travers la figure du bouc émissaire. Je pense que c'est cette représentation, me semble-t-il, d'un schème inscrit apparemment au cœur de la culture occidentale qu'il nous faut déconstruire. Par ailleurs, avec cette logique, on en vient finalement à être incapable de penser, je dirais, la différence des autres. Vous connaissez cette formule qui revient en boucle, il faudrait s'ouvrir à l'autre. Très bien, mais moi je dis toujours, à quel autre dois-je m'ouvrir? C'est-à-dire, tous les autres ne sont pas interchangeables, le juif des années 30 n'est pas le musulman d'aujourd'hui, ou plus largement, tous les immigrés ne sont pas interchangeables non plus, certains s'intègrent mieux, d'autres s'intègrent moins bien, et alors j'ai l'impression qu'on est écrasé par tout un imaginaire assez simpliste, finalement, et quelques formules toutes faites qui nous empêchent, encore une fois, je le redis, de penser la singularité de notre temps. La singularité de notre temps, c'est quoi? C'est tout le contraire d'un Occident colonialiste, patriarcal, dominateur, et ainsi de suite. C'est un Occident qui se voit questionner dans ses fondements même, dans ses fondements de civilisation, et qui, lorsqu'il se questionne trop ouvertement, justement, est ramené à une époque antérieure qui est celle de la pire catastrophe morale et plus que morale dans l'histoire occidentale. Donc, dès qu'il y a un questionnement existentiel, dès qu'on veut sortir des schèmes d'un certain progressisme établi, immédiatement la comparaison avec les années 30 ressort. Et c'est ce qui m'inquiète dans cette comparaison. Ensuite, je ne veux pas dire que notre époque n'est pas traversée d'une série d'inquiétudes légitimes, des mots parfaits, qu'on les pense. Mais à partir du moment où on les pense à la lumière des années 30, on jette, me semble-t-il, des soupçons en répétition sur tous ceux qui ne répètent pas les incantations progressistes.
Vous savez, tout ça, ça porte un nom, ça s'appelle le point Godwin. Hein. Tout ce que vous venez de dire, ça se résume en un nom utilisé sur Internet, c'est le point Godwin.
Le point Godwin,
c'est ce qu'on appelle aussi la réductio ad Hitlerum. Oui. C'est exactement ce que vient de décrire Mathieu Bock-Côté, c'est-à-dire que tout débat contemporain, quel qu'il soit, est immédiatement ramené à Hitler. Je sais pas, vous avez lu mon livre Alain Finkielkraut.
Ah oui.
Vous avez l'impression que je cède au point Godwin?
Pas du tout.
Voilà.
Non, pas du tout. Vous interrogez sur la validité du point de Godwin. Vous ne cédez pas au point Godwin, mais ce qui m'a fasciné, c'est le dialogue que vous avez avec votre mère, ce dialogue fantasmé, elle vous dit qu'elle a cette inquiétude, et donc, ce qui n'a rien à voir avec le point de Godwin, une relance de l'antisémitisme, et ce phénomène-là n'est pas abordé dans votre livre. Mais justement...
Par son intermédiaire.
Mais ce phénomène, ouais, dans ce qu'il a de spécifique aujourd'hui. Mais là...
Bah, c'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est Berlin, oui, 1933.
Oui, mais votre sujet, c'est aussi, et c'est ça qui est très intéressant, qui donne un peu sa tonalité subjective à votre livre. Vous dites que, comme journaliste, votre hantise, c'est celle de rater l'événement, celle de passer à côté. Et vous êtes critique média. Et là, c'est un phénomène que je vous soumets à tous les deux. Les territoires perdus de la République. C'est un livre écrit par des professeurs sous la houlette de Georges Bentoussan. Il est paru en 2002. Et là, il y a, pour le critique média que vous êtes, une interrogation très intéressante. Cette information-là, misogynie, francophobie, antisémitisme en banlieue, a été délivrée non par des professionnels de l'information, mais par des professeurs qui ont crevé le mur de l'information dominante. Et d'ailleurs, ils ont eu de mal à se faire entendre. Et pour le 10e anniversaire de ce livre, Georges Bensoussan a fait cette conférence à laquelle j'ai assisté, et il n'y avait pas de journaliste. Il n'en avait aucun. Et il a recommencé, il a récidivé avec Une France soumise, livre paru chez Albin Michel il y a 2 ans. Donc, comment vous expliquez-vous ce phénomène, une information qui ne vient pas des professionnels de l'information, alors même que c'est une information capitale? Est-ce que ça n'a pas à voir avec ces analogies, ces concordances des temps qui nous éloignent de la spécificité d'une autre?
Donc, si je comprends bien, Alain Finkielkraut, votre question, c'est est-ce que les médias d'aujourd'hui sont aveugles à l'islamisation des banlieues? Appelons les choses par leur nom. C'est ça.
Entre autres choses. Oui, mais...
Non, c'est ça.
Oui, si vous voulez, si vous voulez.
Oui. Ouais, je l'attendais un peu. Hein.
Non, la question. Je vous pose une question précise quand même.
Oui, non, mais qui revient à celle-là, puisque vous dites, c'est les professeurs qui ont tiré les signaux d'alarme.
C'est une question pour vous, il me semble, celle que je vous ai posée.
Mais c'est tout à fait
pour le critique média que vous êtes.
Et pour ne rien vous cacher, je l'attendais un peu. Je veux dire, peut-être. Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde ? Peut-être que, en effet, les banlieues françaises aujourd'hui sont en voie d'islamisation, que la laïcité est gravement menacée dans toutes sortes de, à l'école, dans les activités sportives, à l'hôpital, etc. Mais le moins qu'on puisse dire, et j'espère que vous me l'accorderez à Alain Finkielkraut, le moins qu'on puisse dire, c'est que cette menace, si elle existe, c'est que cette situation, si elle existe, aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'il en est au Québec, mais en tout cas, aujourd'hui, fait la une tous les jours. Vous me parliez des territoires perdus de la République. C'est quelle année, les territoires perdus de la République ?
2002.
C'est 2002. Je pense que vous m'accorderez que depuis 2002, le système médiatique s'est bien rattrapé quand même.
Oui.
Dans la description du phénomène et dans la documentation du phénomène.
Oui.
Peut-être que effectivement, les banlieues, c'est l'enfer, c'est l'islamisation et c'est l'enfer. Moi, tout ce que je peux vous dire, et alors pour le coup, en tant que critique média, c'est qu'à chaque fois qu'on s'est penché, nous, en tant que méta-média, sur un phénomène spécifique ou sur un événement spécifique, on a découvert que c'était pas ce qui était raconté. Exemple type, le café de Sevran. Le fameux café de Sevran. Alors, le café de Sevran, c'est pas les profs. On est d'accord. Le café de Sevran, où théoriquement, les femmes ne peuvent pas entrer, le bar PMU, là, c'est les médias, c'est France 2. Bon, France 2 nous explique, aux 20h, on peut pas dire que ce soit silencieux, caché, France 2 nous explique, il y a dans les banlieues des PMU dans lesquelles les femmes ne peuvent plus entrer. On a fait la contre-enquête sur le café de Sevran, on est allé tourner Arrêt sur image au café de Sevran. Je veux dire, tout le monde nous a expliqué que, oui, les femmes peuvent venir boire un canon au café de Sevran si elles ont envie, et s'il y a peu de femmes dans ce PMU de Sevran, c'est parce que en général, il y a peu de femmes dans les PMU français, parce que ça pue la clope, et que les femmes, en général, jouent moins au tiercé que les mecs. Bon, dernier exemple, et alors là, c'est des journalistes. Le livre de mes deux confrères, L'Homme et Davet, qui s'appelle
oui.
Inch'Allah.
Oui.
Bon, je les reçois à Arrêt sur image, parce que je me dis, formidable, enfin des journalistes qui ont enquêté, sans a priori, sur l'islamisation de la Seine-Saint-Denis, ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, etc. Je les reçois. Bon, je veux dire, à peine le livre est sorti, que arrivent en cascade les démentis factuels de gens qui ont été interrogés dans le livre, qui disent j'ai pas dit ça, qui disent ils ont tronqué mes citations, etc. Donc, je ne dis pas que le problème ne se pose pas. Je dis pas du tout qu'il n'y a pas effectivement dans tel hôpital, dans telle école, dans tel café, dans tel quartier, des problèmes de mise en danger de la laïcité. Je dis en tout cas que si ce phénomène se produit, on peut pas dire qu'il se produise dans l'indifférence médiatique générale.
Oui, il n'y a pas d'indifférence médiatique. Je passe tout de suite la parole à Mathieu Bock-Côté. Mais le manifeste contre le nouvel antisémitisme est paru avec des signatures nombreuses. Laure Adler, Georges Bensoussan, Aurore Berger, Antoine Compagnon, Philippe Val, Sybille Veil et beaucoup d'autres. Et il y a deux mois à peine. Et on parle d'un nouvel antisémitisme alors que ça fait au moins 30 ou 40 ans que ça dure. Et j'ajoute simplement que je vous adjure même, Daniel Sherman, de recevoir à Arrêt sur image les auteurs d'une France soumise. Vous avez le choix, Charlotte Bonnet, Barbara Lefebvre, Laurence Marchand-Taillade ou Caroline Valentin. Voilà, vous êtes maître à bord.
Oui, j'ai l'impression que si le système médiatique, effectivement, il tient compte de ce qu'on pourrait appeler la crise migratoire, on pourrait utiliser des termes qui relèvent moins de l'euphémisme aussi, ou encore de l'islamisation de certaines banlieues européennes, je pense que votre ancien ministre de l'Intérieur ou François Hollande ont utilisé des termes encore une fois plus durs de partition ethnique, par exemple. On présente ces événements généralement, ou tout le moins cette réalité, généralement en les enrobant d'un discours de mise en garde. C'est-à-dire, oui, c'est là, mais ça ne doit pas faire le jeu, et là on doit faire la liste de tous les gens dont on ne doit pas faire le jeu. Il y a aussi cette idée, lorsque certaines informations nous arrivent dans l'espace public d'une manière ou de l'autre, elles s'accompagnent souvent, oui, mais ce propos n'est pas légitime parce que c'est une personne qui est marquée comme polémiste, infréquentable, ou encore on va lui coller une autre étiquette, et les étiquettes déshonorantes sont assez nombreuses. Donc peut-être effectivement qu'il y a une prise en charge, on reconnaît aujourd'hui qu'il y a une immense mutation dans la civilisation européenne, mais au même moment, il y a tout un discours de commentateurs qui accompagne pour dire « ce n'est pas grave » et par ailleurs, si ça arrive, c'est une bonne nouvelle, soyez certains, ce n'est pas grave. Donc une forme de volonté de neutraliser la signification politique, de neutraliser la signification historique de ces mutations que nous connaissons. Et moi, on pourrait le donner sur tant et tant d'exemples. Il y a le débat en ce moment sur la PMA, je crois, c'est pas les années 30, mais PMA, GPA, on va nous dire en ce moment, c'est une réforme technique, il s'agit d'un ajustement, c'est nécessaire, et le lendemain, quand ça passe, on nous dit c'est une réforme de civilisation fondamentale, on ne peut pas revenir derrière ça, sinon c'est de la nouvelle barbarie. Donc je suis fasciné, quant à moi, je m'intéresse aussi au langage médiatique, comment, d'une certaine manière, certains événements nous sont présentés pour neutraliser leur signification politique. Pensez à ce qui s'est passé à Cologne, par exemple, me semble-t-il. C'était fascinant. D'abord, ça n'a pas eu lieu. Ensuite, quand ça a eu lieu, c'était pas si grave que ça. Ensuite, quand c'était si grave, faut voir que ça s'explique aussi par le fait que la civilisation européenne a provoqué une forme de ressentiment chez ceux qui se rendaient coupables d'agressions sexuelles massives. Et une fois que tout ça a été dit, faut surtout pas que ça serve les intérêts de quelque extrême que ce soit. Alors, cette capacité de neutraliser la signification politique de ce qui nous arrive me semble être un autre trait dominant de la culture médiatique à laquelle nous participons.
L'exemple que vous donnez est l'exemple inverse de celui que je donnais avec le café de Sevran, on est bien d'accord. C'est la même chose dans l'autre sens. C'est-à-dire que dans un cas, on met sous l'étouffoir parce qu'effectivement, on n'a pas envie de dire. Et dans l'autre cas, qui est celui du PMU de Sevran, on gueule. Et puis quand on vérifie, on se rend compte que ça se dégonfle. Mais si vous êtes en train de dire que le journalisme français est malade d'un excès d'idéologie, je suis d'accord avec vous.
Oh, c'est pas spécificité française, ne vous inquiétez pas.
En tout cas, je parle de celui que j'observe tous les jours, j'essaye. Oui, je suis d'accord. Moi, vous savez, j'ai d'abord été reporter et grand reporter au service des informations générales du Monde, c'est-à-dire les faits divers, dans les années 80. Bon, et les faits divers dans les années 80, je me souviens très bien, si vous voulez, c'était le débat, c'était le début de la montée de Le Pen, de la montée électorale de Jean-Marie Le Pen. Et effectivement, il y avait un débat général dans la rédaction et dans toutes les rédactions qui était de dire, voilà, si un fait divers, un assassinat, un infanticide ou je ne sais quoi, est-ce qu'il faut en parler, est-ce qu'il faut pas en parler, est-ce qu'il faut dire que le coupable s'appelle Mohamed, est-ce qu'il faut pas le dire, comment il faut le etc.
Est-ce qu'on doit changer son prénom?
Est-ce qu'on doit changer son prénom? Quels détails on donne? Moi, vous savez, j'ai toujours été comme journaliste incapable de ne pas donner une information que j'avais. À partir du moment où j'ai une information, je la donne. Et effectivement, de temps en temps, en me couvrant la tête en me disant « mon Dieu, qui est-ce qui va récupérer ça ?» Mais en même temps, l'information, elle existe. Et à partir du moment où on la donne...
Est-ce que vous pensez, Daniel Schellenmann, que la presse aujourd'hui donne une information exacte sur les auteurs d'actes homophobes qui se produisent de plus en plus souvent à Paris et dans la banlieue parisienne? Moi, je pose la question, mais j'ai mon hypothèse. Je crois que non. Je crois qu'on nous invente encore une résurgence de l'homophobie dans ce pays qui ne supporte pas le mariage des homosexuels, qui est hostile à la GPA. Je crois que c'est très largement faux, mais qu'encore une fois, il y a cette peur légitime de stigmatiser une jeunesse en déshérence. C'est pour cela qu'on n'ose pas, on ne veut pas alimenter, en effet, faire le jeu des racistes qui sont tapis au coin de la rue. Donc on tait un certain nombre d'informations au moment même où on mobilise l'opinion contre l'homophobie montante.
Mais Daniel Schellenmann. Je crois me souvenir, Alain Finkielkraut, qu'on avait fait ensemble une émission à Arrêt sur Image sur Internet. Dans laquelle vous nous aviez confessé que vous n'étiez pas extrêmement familier d'Internet. Et excusez-moi, mais je crois que ça se confirme encore aujourd'hui. Je veux dire, est-ce que vous connaissez un site sur Internet qui s'appelle F de Souche?
Mais je parle de la télé, je parle des journaux, F de Souche fait ce qu'il veut, mais F de Souche, c'est la fachosphère. C'est la fachosphère.
Mais vous croyez qu'F de Souche n'a aucune influence? Mais F de Souche a une influence, mais considérable.
Oui, mais vous voyez bien que ça alimente l'antifascisme.
On n'est plus à l'époque de la télé toute puissante, c'est fini depuis 10 ans. On n'est plus à l'époque de la télé unique. Alors, discutons sur pièce. Je veux bien qu'il y ait effectivement un ou plusieurs incidents homophobes dans lesquels on n'est pas dit que les coupables étaient des arabes ou des musulmans, puisque c'est, j'imagine, ce que vous voulez dire, même si vous ne le dites pas comme ça. Alors, mais discutons sur pièce. Donnez-moi un fait divers, donnez-moi un fait dans lequel il se soit avéré que l'identité des coupables d'un acte d'homophobie ait été dissimulée. Et nous, Arrêt sur Image, on se précipitera.
Ils n'ont pas été désignés comme tels. Leur origine a été largement dissimulée par la presse officielle. Tous les journaux, on n'en a pas parlé.
Mais de quel fait parlez-vous?
Si je peux me permettre un autre exemple.
Quel fait parlez-vous? Ben, je vais vous parler, par exemple, je vais vous parler d'un fait connu et reconnu d'un couple homosexuel qui s'embrassait et qui s'est fait casser la figure par le chauffeur de l'Uber. C'est un événement parmi d'autres.
Et alors, c'était quand? C'était où?
Pardonnez-moi
de relancer un autre exemple qui me semble assez caractéristique. Je me rappelle juste au lendemain de la présidentielle, ça m'avait marqué. Le quartier La Chapelle-Pajol, les femmes ne peuvent plus s'y promener. C'est très compliqué. Ensuite, on nous dira que c'est plus complexe, mais sur le fond des choses, sentiment que les femmes sont exclues d'une manière ou de l'autre de l'espace public. Et je me rappelle très bien du traitement médiatique qui me fascine. On dit concentration massive d'hommes sur le terrain. Beaucoup, beaucoup d'hommes. Et là, on regardait les émissions de télé, c'était fascinant. Là, tout le monde avec une forme de sous-entendu qui n'osait pas se dire « Oui, il y a beaucoup d'hommes récemment. Pourquoi les hommes ?» Et là, l'interprétation, c'est « N'est-ce pas le signe d'une résurgence de la culture patriarcale européenne ?» Donc, pour ne pas nommer ce qui était un problème dans ce cas-là de disons le polymère de choc des cultures, on décidait de reporter l'accusation sur l'Europe sur le mode « La vieille civilisation patriarcale européenne frappe encore. » Convenez qu'il y a, à partir de ce refus de nommer certaines réalités, des interprétations qui partent véritablement à la volée.
Mathieu Bocoté, je ne sais pas quels journaux français arrivent au Québec, mais je pense que vous n'avez pas lu toute la presse française.
J'aimerais vous répondre, vous savez qu'Internet existe.
Vous n'avez pas lu toute la presse française.
Oui, croyez-moi.
Il y a eu effectivement ce que vous dites. Mais c'est vrai qu'il y a de l'understatement, c'est vrai qu'il y a de la litote, c'est vrai que parfois on n'ose pas nommer parce qu'on se dit ça va être récupéré par ceci ou cela. C'est vrai, je ne vais pas nier que ça existe, je ne vais pas moi-même faire du déni, si vous voulez, alors que j'ai fait un livre sur le déni. Voilà, simplement, il y a quand même aussi une certaine presse en France qui existe, qui s'appelle F de Souche, qui s'appelle Valeurs Actuelles.
Vous ne pouvez pas dire ça, puisque précisément, cette presse, c'est la fachosphère, et donc on reste pris dans cette espèce d'engrenage dont je voudrais que nous sortions. C'est tout. Et alors, vous vouliez des faits précis. Alors, voilà, un jeune homme de 23 ans, militant LGBT, Liesse Alouane, a été insulté et frappé à Gennevilliers. C'était le vendredi 23 novembre, dans le quartier du Lutte. Il a déjà déposé une quinzaine de plaintes pour insultes et agressions homophobes, déplorant la banalisation totale de ce type de violence dans certains quartiers. Et il ajoute, le quartier du Lutte est une zone de non-droit. Voilà. Alors, donc ça c'est un phénomène qui mériterait.
Qu'est-ce que vous venez de lire là? C'est issu de quel journal?
Bah, écoutez, c'est Newslecteur. France Info, France Télévisions. C'est pas F de Souche.
Simplement sur cette affaire sur laquelle je ne me suis pas penché, mais j'ai un peu lu les articles qui sont parus sur le sujet. Il se trouve que c'est effectivement un responsable départemental LGBT que quand cet incident est survenu, il était accompagné d'une équipe d'envoyés spéciales, c'est-à-dire une équipe d'envoyés spéciales, ça veut dire au moins 3 journalistes qui sont autour de lui. Alors, je ne sais pas exactement comment ça s'est passé, et ça n'excuse rien, mais on a quelqu'un qui déboule comme ça, qui vient mettre des tracts dans les boîtes aux lettres d'une cité, avec une équipe de télé qui filme, on imagine que ça attire du monde. Alors après, je n'y étais pas, je ne sais pas ce qui s'est passé, vous me citez un cas particulier, je vous dis ce que
chaque fois noyer le poisson, quand même, parce qu'il y a beaucoup de cafés sans phare, même si ce n'est pas le cas du café de Sevran. Mais je voudrais vous poser une autre question, puisque cette analogie est revenue tout récemment à propos du mouvement des Gilets jaunes. Sinon du mouvement tout entier, du moins de la manifestation des Champs-Élysées. C'est Darmanin qui a parlé de la peste brune, et c'est le nouveau ministre de l'Intérieur, Castaner, qui a évoqué le 6 février 34. Ces comparaisons vous paraissent-elles justifiées pour caractériser même une partie de la révolte qui se déploie sous nos yeux?
Non, je ne veux pas témoigner d'une sympathie particulière envers le mouvement des Gilets jaunes, non plus que d'hostilité, mais tout ce que je constate, c'est qu'il semble y avoir un rétrécissement considérable de l'imagination historique ou de la culture historique chez nos dirigeants. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent finalement de l'histoire que les années 30, finalement. Ils ne savent que le fascisme, ils ne connaissent que le fascisme, donc qu'est-ce qui arrive, peu importe ce qui arrive, ils connaissent le fascisme. Et plus largement, s'ils savent quelque chose, c'est que la civilisation occidentale est coupable. Laissez-moi juste vous donner un exemple qui va vous donner, qui qui va vous montrer le sens de mon propos. J'étais en conférence la semaine passée à Lyon, ou à tout le moins dans la banlieue de Lyon, pour faire une conférence sur la question du multiculturalisme. Je crois que c'est une banlieue de Lyon. On me pose une question, ça commence toujours comme ça. Vous savez, je connais pas du tout l'histoire du Québec et du Canada, mais fondamentalement, vous avez exterminé les Amérindiens. Alors, de quel droit pouvez-vous exiger que les immigrants s'intègrent à vous désormais? Alors, moi, je note deux choses là-dedans. Premièrement, ils reconnaissent qu'ils ne connaissent absolument rien à l'histoire du Québec et du Canada. Et deuxièmement, ils en savent assez pour condamner l'existence même de ces États. Et autrement dit, devant des jeunes relativement incultes, qui connaissent pas grand-chose à grand-chose, ils savent une chose, il y a une liste de coupables, de victimes historiques, et ensuite, il y a le grand coupable, ce qui est encore une fois la civilisation occidentale, et ce qu'on sait en dernière instance, c'est qu'on peut toujours appliquer ce récit de l'oppresseur et du dominé sur tous les rapports sociaux. Ramenons ça à la question des Gilets jaunes, encore une fois, on n'en connaît pas grand-chose, donc, immédiatement, l'imaginaire du fascisme est utilisé. Si on est plus sophistiqué, on parle du 6 février 34, mais ça témoigne rien d'autre que d'une fiche préparée avec quelqu'un d'un peu plus cultivé autour de soi, mais on n'a aucune autre référence historique pour penser le présent que cette obsession maladive des années 30. Alors, une fois qu'on a dit qu'on a les années 30 devant soi, si on est sérieux, ben, il faut prendre des mesures exceptionnelles pour éviter qu'ils leur reviennent. Mais cette capacité exceptionnelle de peste-bruniser le désaccord, de marquer, de xénophobiser le désaccord, de toujours dire que finalement l'insurrection qui est devant nous n'est rien d'autre que l'éternel retour de la bête, cette forme de démonologie qui vient, soit dit en passant, je me permets de le dire, avec une forme de... La bête, on la sent avant même de discuter avec elle. Hein. Elle a des odeurs, hein, des odeurs sulfureuses, ou encore un parfum nauséabond. Toutes les images utilisées sont faites pour dire nous ne sommes pas devant un désaccord qui mérite qu'on argumente avec la personne qui le porte. C'est simplement dit, nous sommes devant l'infréquentable et faites sonner les sirènes de l'antifascisme. Quand on est devant ça, je trouve qu'on est devant une faillite de l'intelligence, et je m'en désole quand je vois ça chez les jeunes étudiants de la banlieue de Lyon, mais je m'en désole encore plus quand je vois ça chez des responsables politiques.
Bah, sur Darmanin et les Gilets jaunes, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est lamentable. c'est lamentable, bien entendu. Il a dit les chemises brunes, c'est ça? Il a dit les Champs-Élysées ont été...
La peste brune
sur les Champs-Élysées.
Enfin, et le 6 février 34 pour...
Là, on est dans autre chose. On est dans l'irruption d'un mouvement social nouveau, totalement nouveau... qui surgit comme ça en pleine lumière et qui était jusqu'alors passé totalement sous les radars de la plupart des médias, il y a un mouvement qu'il importe de comprendre dans ses ressorts, dans ses racines sociologiques, dans ses revendications. Pour un journaliste ou pour un chercheur, c'est d'ailleurs assez enthousiasmant, exaltant.
Oui, c'est vrai. Il y a un défi pour nous tous. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Comment le comprendre? Mais je voudrais poser une question plus générale, justement, sur cette pratique de l'analogie. Parce que se passait-il dans les années 30 face à la montée des périls? Les gens ne voulaient pas voir parce que Hitler était inimaginable. Vous le montrez très bien dans votre livre, et parfois pour d'autres raisons.
Voilà, pas seulement pour cette raison-là. Il y avait aussi le fait qu'il allait faire barrage aux communistes.
Voilà, ça c'est très important. Oui. Absolument. Oui. Mais il y avait aussi des gens qui étaient obsédés par 1914 et qui n'ont pas voulu rééditer cette guerre. Et j'ai étudié le cas de Félicien Marceau. Il parlait, pour la guerre de 14, de ce mécanisme narquois déclenché par mégarde et qui échappait aux hommes. D'où un pacifisme acharné où on ne voulait pas voir la nouveauté de l'événement car on était littéralement obsédé par l'événement d'hier. Et est-ce que ça, c'est pas une leçon, justement? Et d'ailleurs, une leçon que Valéry s'acharnait à nous apprendre, il se méfiait beaucoup des comparaisons historiques, il disait « l'histoire est la science des choses qui ne se répètent pas ». Et il écrivait aussi que l'histoire forme pour l'imagination une table de situations et de catastrophes, une galerie d'ancêtres, un formulaire d'actes, d'expressions, d'attitudes, de décisions offerts à notre instabilité et à notre incertitude pour nous aider à devenir. Quand un homme ou une assemblée saisie de circonstances pressantes ou embarrassantes se trouve contraint d'agir, leur délibération considère bien moins l'état même des choses en tant qu'il ne s'est jamais présenté jusque-là qu'elle ne consulte ses souvenirs imaginaires, et parfois ça donne des résultats déplorables. On l'a vu en 40 pour tous ces pacifistes, et peut-être que c'est la leçon justement que nous devrions méditer lorsque nous laissons polariser par l'analogie avec les années 30.
Vous savez,
Daniel Schneiderman.
C'est pas un problème seulement intellectuel. Hein. Dans les années 30, la Grande Guerre est finie depuis 20 ans. Je veux dire, ça a été une saignée atroce dans le moindre village de France. Les rues sont pleines d'invalides de guerre, de gueules cassées. Je veux dire, c'était, je veux dire, faut se rendre compte. Dans les années 30, c'était hier. Donc, effectivement, on peut dire aujourd'hui, oui, les pacifistes, etc., ils n'ont rien vu, le déni. Le pacifisme, ce pacifisme qui a été, c'est certain, un ressort de l'aveuglement volontaire sur le nazisme, parce qu'on voulait pas la guerre. Voilà. Toute la classe politique britannique ne voulait pas la guerre, à l'exception de Churchill, qui était bien seul, mais tous les autres ne voulaient pas la guerre. Aux États-Unis, j'étudie le cas d'un patron de presse, le patron du Chicago Tribune, qui avait fait la Grande Guerre au rang de colonel, le colonel McCormick, je veux dire, censure tous les papiers de son envoyé spécial à Berlin pour les édulcorer, pour les rendre inoffensifs, pour surtout que ça ne justifie pas un bellicisme américain. Mais c'est très important. Mais ce pacifisme, moi, j'ai absolument pas envie de jeter la pierre aux pacifistes de l'époque, parce que les ressorts du pacifisme, ils sont charnels.
Mais qu'on me permette de retourner, cela dit, l'affirmation. Alors, quand on pense à ce qui a permis de résister au totalitarisme, moi, c'est une question qui m'obsède. Qu'est-ce qui a permis de résister au totalitarisme? Prenons le général de Gaulle, prenons Churchill. C'était tout le contraire de pris 68 heures en culotte courte. Et aujourd'hui, s'il revenait hanter notre monde d'une manière...
Mais vous ne pouvez pas jongler avec
un instant.
Arrêtez.
Laisse-moi finir ma phrase, s'il vous plaît. Ce que j'entends par là, c'est que ce qui a permis de vaincre le totalitarisme, c'était un patriotisme tragique, un patriotisme intransigeant, une conception tragique de l'histoire, une volonté d'assumer la décision politique. Et lorsqu'on écrit l'histoire du 20e siècle.
Et donc vous voulez dire quoi? Que c'est des gens de droite? Oui,
non, Churchill mais était, ce que Churchill je dis, c'est aujourd'hui, droite, un instant, ce que droite, je, un non, instant,
pas,
laissez-moi finir. Ce que je dis, c'est que les vertus qui ont été nécessaires pour combattre le totalitarisme, qu'il s'agisse du nazisme ou du communisme, on a parlé de John Stein ces derniers jours, les vertus qui ont été nécessaires sont aujourd'hui des vertus qui sont diabolisées, disqualifiées, pathologisées, rejetées fondamentalement. De Gaulle ou Churchill, si on veut jouer de l'analogie historique, reviendraient aujourd'hui nous hanter, qu'on les déclasserait à l'extrême droite de l'extrême droite. Ce seraient les infréquentables absolus. Alors moi, je trouve qu'il y a une forme là-dessus dans la réflexion qu'on porte sur les totalitarismes. Me semble-t-il qu'on a insuffisamment réfléchi au ressort de l'antitotalitarisme, ce que les gens qui s'opposaient au totalitarisme croyaient défendre, dans un cas une France sacrée, dans une autre une conception très très forte de l'Empire britannique. Et je crois qu'on devrait aujourd'hui, quand on décide de dire que la nation c'est la guerre, ou ainsi de suite, ou le nationalisme entre guillemets c'est la guerre, on devrait se rappeler que ceux qui ont sauvé nos démocraties et nos libertés étaient des gens qui s'alimentaient de vertus, de passions qui sont aujourd'hui moralement disqualifiées.
Oui, et aussi tous les résistants communistes qui se sont fait tuer en France et qui ont été fusillés. Moi, j'ai pas du tout envie de jongler avec les époques de la manière dont vous le faites. Je trouve que
je parle des vertus qui sont nécessaires pour combattre le totalitarisme. J'ai pas envie de jouer
à si De Gaulle revenait aujourd'hui.
Interrogeons-nous, on parle beaucoup de la montée des nationalismes. Or, il est clair que l'idée de nation était très chère au cœur de Gaulle et de Churchill, et que ce qui s'est produit, ce que montre bien Marc Bloch, avant la Deuxième Guerre mondiale, c'est une sorte de collapsus national. Simone Veil le dit. Les Français ont laissé tomber la patrie par terre. Elle dit ceci: les Français n'avaient pas autre chose que la France à qui être fidèles, mais quand ils l'abandonnèrent pour un moment en juin 1940, on vit combien peut être hideux et pitoyable le spectacle d'un peuple qui n'est lié à rien par aucune fidélité. Donc la vraie mémoire devrait aussi nous amener peut-être à réhabiliter la fidélité, l'héritage, l'inscription dans une nation, le droit à la continuité historique. Voilà tout ce qu'on peut essayer de dire, Daniel Schneiderman.
Oui, enfin, là, pour le coup, je pense qu'on tord les décennies allègrement, on reconstruit, on s'amuse à plaquer nos débats d'aujourd'hui sur les débats de l'époque. Vous me parlez de De Gaulle, oui, De Gaulle était un militaire, il avait fait 14-18, évidemment que c'était un nationaliste. Qu'est-ce que vous voulez que je vous
dise? Il a compris que 40, c'était pas 14-18 aussi, quand même. Lui, malgré l'impression très forte que cette première guerre avait fait sur lui.
Je sais pas ce qu'il a compris en 40. En tout cas, il a suffisamment bien compris en 40 pour faire le bon choix. Oui. Si vous voulez, à l'inverse de, mais on va peut-être y venir en fin d'émission, à l'inverse.
Malheureusement, elle se termine.
À l'inverse de ce que disait il y a 3 semaines votre invité Éric Zemmour.
Absolument.
Que vous avez laissé dérouler ces apologies de Pétain et de la collaboration pendant toute l'émission.
Bon, alors je termine, là, c'est à moi de terminer. Ouais. Ce que vous dites est très largement faux, Daniel Schneiderman. Éric Zemmour est venu parce que je pense en effet que ses arguments, son livre a un immense succès, c'est un éditorialiste influent, devait être contredit. La contradiction s'est faite dès le début.
Vous êtes satisfait de la manière dont vous l'avez contredit?
Vous l'avez
réécouté ensuite?
Je l'ai, bien entendu, je l'ai contredit tout le temps, sur tous les points, notamment sur la question du Pétain bouclier, en disant qu'il ne pouvait pas parler ainsi, puisque à l'abri d'armistice, il avait voulu chasser l'anti-France. Je lui opposais longuement Laurent Joly, et surtout Jean-Louis Crémieux-Briac.
Mais pourquoi ne pas avoir invité Laurent Joly?
Et Paul Thibault était très posé.
Pourquoi ne pas avoir invité Laurent Joly?
Je n'ai pas invité Laurent Joly pour une raison très simple. Laurent Joly ne voit Vichy qu'à travers le prisme de la participation de Pétain, des pétainistes, à la solution finale. C'est le crime inexpiable, mais ce n'est pas le tout du pétainisme. Et je voulais opposer gaullisme et pétainisme avec une forte réflexion de penseur politique. C'est pour ça que j'ai invité Thibault, qui était plus qu'à la hauteur. Mon seul regret, c'est qu'en effet, Zemmour, qui parlait beaucoup, et parlait trop. Mais c'était une émission à laquelle on ne peut pas dire que je lui laissais dérouler ses arguments, parce que c'était vraiment du 2-1, de manière spectaculaire, massive et véhémente. Voilà, je suis obligé de terminer là-dessus, mais je vous laisse.
C'est bien dommage.
Bon, allez-y, vous concluez.
Non, mais parce que si vous voulez, alors voilà encore un parallèle. Vous avez lu mon livre, vous avez lu par exemple, vous avez redécouvert ces personnages incroyables que sont les frères Tarot dans les années 30, qui sont des journalistes qui écrivent dans la grande presse, dans Paris Soir, et qui déroulent à longueur de page un antisémitisme, on va dire ethnologique, un antisémitisme sans haine apparente. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose de très surprenant quand on lit ça aujourd'hui. Je pense que dans les gens qui regarderont notre presse et écouteront les archives de réplique dans 50 ou 80 ans, seront sans doute très étonnés de voir que il pouvait y avoir quelqu'un comme Zemmour qui explique tranquillement que Pétain n'était pour rien dans le statut des Juifs et qu'au fond il a fait ce qu'il pouvait pour protéger les Juifs. Et qu'il puisse dérouler ce type d'argument.
Mais malheureusement, il y a des gens qui le disent en France. Malheureusement, c'est la thèse de Robert Aron, Pétain bouclier, le bouclier et l'épée. Cette thèse reprend du poil de la bête dans une partie de la droite.
Grâce à vous, parce que vous invitez Zemmour.
C'est pas du tout grâce à moi. Vous ne pouvez pas dire ça. Le livre se vend à 300 000 exemplaires. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Et la meilleure manière de déconsidérer cette thèse, c'est effectivement de lui répondre. Et je pense que ça a été le cas, mais on est obligé d'arrêter. Alors, je rappelle quand même le titre de votre livre, Daniel Schneiderman, Berlin 1933, La presse internationale face à Hitler. Il est publié au Seuil. Et vous avez écrit, Mathieu Bocoté, le multiculturalisme comme religion politique aux éditions du Cerf, ainsi que le nouveau régime aux éditions Boréal. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Hochard et Anna Holweck. À la technique aujourd'hui, Florent Bujon. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.